À l'émission Marcher en creusant, nous vous présentons une émission de la série ayant comme titre « Vivre de tout son être », animée par le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
La fois précédente, je vous ai raconté les raisons pour lesquelles je me suis intéressé de plus en plus aux questions concernant la santé, la spiritualité, les rapports entre santé, spiritualité, affectivité. Et je vous ai aussi montré en quelques mots comment actuellement il y a une quête de santé qui est différente du passé et qui se présente avec de nouvelles questions. Alors, dans cette émission, je vais surtout vous présenter l'évolution de cette quête de santé dans nos sociétés, en approfondissant un certain nombre de questions. Et la fois prochaine, nous verrons comment, dans la quête spirituelle des gens, il y a aussi une quête de santé. Parce que ce que je voudrais souligner, c'est que un certain nombre de personnes sont convaincues que la santé est liée aussi à la vie spirituelle. Et il faut quand même reconnaître qu'il y a un grand nombre de personnes qui actuellement méditent. Alors la méditation peut être utilisée de façon orientale, qui est un travail sur le corps, le souffle, la respiration, l'immobilité. Et ils se disent, mais si je médite, en même temps que je me soigne, je vais vraiment trouver un équilibre. Et pour eux, la santé et la sagesse, ça va très fort ensemble. Et le chemin spirituel. Pour d'autres, qui sont engagés sur un chemin spirituel, elles sont persuadées également que c'est un rapport avec la santé. Donc, que l'on soit actuellement dans une recherche thérapeutique ou que l'on soit dans une recherche plus spirituelle, il y a comme des champs qui se croisent. Le champ du thérapeutique rencontre le champ du spirituel. Des gens méditent pour être en bonne santé et des gens qui prient espèrent que la prière va les aider à retrouver un équilibre. Voyons donc d'abord maintenant comment la santé est quelque chose qui évolue, parce qu'elle est profondément liée à la culture. Et on ne se voit pas en bonne santé de la même façon selon les époques. En tout cas, il y a un fait qui frappe les observateurs aujourd'hui, qui vous a peut-être vous aussi frappé, parce que vous êtes aussi de ces gens qui s'intéressent aux thérapies alternatives. Peut-être que certains d'entre vous font du yoga, qu'il y en a d'autres qui font du tai chi, vous savez, cette gymnastique très lente qui vient de Chine. Peut-être que d'autres utilisent des arômes, ce qu'on appelle l'aromathérapie. Bon, il y a vraiment aujourd'hui un intérêt de plus en plus important pour des propositions thérapeutiques qu'on dit alternatives ou parallèles ou complémentaires, en tout cas différentes de ce qu'on appellerait la médecine conventionnelle. Et c'est vrai que les observateurs des questions de santé sont frappés de voir comment des gens s'adressent tour à tour à différentes sortes de soignants, de thérapeutes, de guérisseurs. Et c'est souvent d'ailleurs lié à une insatisfaction. On rencontre des gens qui demandent des rituels. Alors ils vont s'adresser aux églises, à certaines religions. Entre autres, nous voyons comment, dans le christianisme, les églises pentecôtistes, les églises évangéliques sont sollicitées parce qu'elles proposent des démarches de guérison. On en retrouve dans l'église catholique des aspects à travers le renouveau charismatique. J'ai fait allusion, la fois passée, au fait qu'en Afrique, il y a des églises qu'on appelle afro-chrétiennes, des églises donc dirigées par des Africains, par des prophètes africains, comme ils s'appellent, qui sont aussi des églises thérapeutiques. Et dans le fond, derrière cette recherche, il y a une insatisfaction par rapport aux réponses occidentales, que ces réponses proviennent de la biomédecine, de la psychologie ou des églises chrétiennes. Quand je dis biomédecine, je veux dire cette médecine biologique, c'est-à-dire dont la logique relève d'une approche que l'on enseigne dans les universités, dans les facultés de médecine, où l'accent est mis sur le physiologique et sur le biologique. Il faut dire que ça s'est élargi maintenant vers le psychosomatique, par la psychologie. Et puis alors, il y a les réponses des églises chrétiennes marquées par l'Occident. Par exemple, dans l'Église catholique, il existe le sacrement de l'onction des malades. Eh bien, pendant très longtemps, on n'y a plus fait allusion à la guérison physique. Pendant longtemps, ce sacrement a été présenté comme le sacrement de la faim. Et c'était moins un sacrement donné pour guérir que pour recevoir le pardon des péchés et avoir le courage d'affronter la mort. Or, maintenant, ça a beaucoup changé. Peut-être que vous qui m'écoutez, vous n'avez pas eu beaucoup l'occasion de voir ce sacrement se célébrer, mais ce n'est plus du tout comme ça se faisait dans le temps. C'est aussi une question sur laquelle je reviendrai. Il y a aussi un reproche qui a été fait au christianisme. On entend dire dans certains milieux, et même des milieux chrétiens, qu'en fait on a oublié que le Christ guérissait, que le Christ a été thérapeute. Et c'est vrai que dans les débuts de la vie du Christ, ce qu'on a appelé le printemps galiléen, vous savez, quand Jésus parcourait la Galilée et que les gens le suivaient, essayaient de le toucher, écoutaient sa parole, mais aussi venaient pour se faire nourrir, comme à la multiplication des pains, eh bien c'est vrai que Jésus avait un grand succès. Lorsqu'il a commencé à annoncer sa passion, lorsque l'opposition s'est fait sentir venant du Sanhédrin, des scribes, des pharisiens, lorsque Jésus était à Gethsémani, et après, il s'est retrouvé seul au calvaire. Donc là aussi, on s'est rendu compte petit à petit qu'il n'était pas qu'un thérapeute, qu'il avait autre chose à dire. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, certains disent qu'il faudrait que les églises chrétiennes guérissent et soient fidèles à leur fondateur. C'est encore une question que nous reprendrons. On parle aujourd'hui d'itinéraire thérapeutique, c'est un terme un petit peu technique qui est utilisé par les anthropologues. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais sans doute quelque chose que vous avez expérimenté vous-même. C'est-à-dire que quand quelqu'un se sent en situation de fragilité, se sent malade, se sent menacé dans son équilibre, il va aller partout où il peut trouver un soulagement. Et dans ces itinéraires thérapeutiques, je vous le disais, on va associer du spirituel avec du physique, un travail sur l'affectif, un travail sur le corps. Parce que, comme nous l'avons déjà entendu, pour beaucoup de gens, bonheur et santé vont ensemble, bien-être physique et épanouissement personnel. Et ça, c'est peut-être un des changements les plus importants que l'on rencontre actuellement en Occident. Pour un certain nombre de personnes, il ne s'agit plus seulement d'avoir le droit à l'accès aux soins, mais il s'agit d'un droit à la santé. J'ai le droit d'être en bonne santé. Et il n'y a pas seulement une obligation de moyens pour le soignant, mais une obligation de résultat. Vous avez certainement entendu parler de ces procès qui sont faits à des médecins, à des soignants, parce que les traitements qu'ils ont proposés, qu'ils ont appliqués, n'ont pas donné les résultats escomptés. Parfois, ce sont les personnes les plus privilégiées qui sont les plus exigeantes dans le domaine de la santé, ceux qui ont le plus de moyens financiers. Je vous disais que dans certaines cultures, simplement manger à sa faim, c'est déjà extraordinaire, c'est déjà être en bonne santé. Tandis que en Occident, il ne s'agit pas simplement d'une absence de maladie, c'est quelque chose de beaucoup plus large. On peut comprendre que les personnes cherchent en Occident d'autres soutiens dans le domaine de la santé parce que nous vivons des sociétés qui apportent un stress excessivement difficile à porter quand on est en situation de responsabilité. Nous avons des rythmes de vie en Occident qui sont souvent contre nature. Je ne sais pas si vous faites la même expérience que moi quand vous rentrez de vacances, mais ce que je sais, c'est que les premiers jours, eh bien, j'ai beaucoup de mal à reprendre le rythme et l'effort mental et physique que ça me demande au niveau heure de sommeil, au niveau rythme de travail est tel que chaque fois je me dis, c'est quand même assez bien contre nature notre rythme. Comment arriver à assumer nos responsabilités professionnelles et familiales sans être continuellement dans la course? Et ce n'est pas forcément parce qu'on a plus de jours de congé qu'on n'est plus reposé, parce que souvent on les remplit de toutes sortes d'activités qui sont presque une obligation lorsqu'on écoute les médias et les publicités. Donc voilà, il y a le stress, il y a le rythme de vie, il y a toutes ces pathologies qui sont nées de la vie moderne et qui font que du coup, eh bien, l'aide que l'on va demander à la médecine, mais pas seulement à la médecine, aux thérapies, aux gymnastiques, aux propositions orientales, c'est une aide qui consiste parfois simplement à arriver à tenir la tête hors de l'eau. Peut-être que quand vous rentrez chez vous, vous sentez le besoin de faire un exercice de relaxation. Pour les soignants qui m'écoutent, ils ont peut-être appris que par la sophrologie, on peut arriver avec un travail de visualisation à se libérer d'un certain nombre de stress, de tensions, même si la sophrologie peut être dangereuse selon le praticien. Vous savez que c'est dans cet état sophronique de conscience où on peut être plus facilement manipulé. Mais en tout cas, il y a un très très grand nombre de possibilités qui nous sont offertes à travers tous ces exercices de relaxation, de yoga, de visualisation, etc. Et la question, c'est comment discerner ? En tout cas, un nombre croissant de personnes se sentent responsables de leur santé et de leur équilibre. Alors maintenant, nous pouvons nous poser la question, mais comment avancer avec ces questions pour arriver à trouver une solution pour, d'un côté, assurer ce capital santé, faire ce qui dépend de nous, mais en même temps, accepter ce qui ne dépend pas de nous, qui est notre fragilité, qui est nos limites. Et ce travail sur soi-même que nous pouvons faire, non pas pour un épanouissement nombrilisant, égocentrique, où on cherche simplement à être bien pour soi-même, mais arriver à faire un travail de connaissance de soi qui nous permette de nous prendre en main sans pour autant faire de nous le centre de l'univers. Et là, il y a un équilibre à trouver entre ce qui est bon pour moi et les autres et ce qui devient un véritable esclavage parce que je suis fasciné par mon corps, par un bien-être permanent, par l'image que je donne de moi-même. Et à ce moment-là, la santé devient obsessionnelle. Et elle est déshumanisante. Cette quête devient déshumanisante alors qu'elle devrait être humanisante. Si je continue à travailler dans ce sens d'une recherche de connaissance de moi, si vraiment je me pose la question, mais pour moi, ça veut dire quoi être en bonne santé ? Je peux peut-être arriver à avoir une attitude plus équilibrée, plus juste, plus vraie par rapport à cela. Et je peux peut-être réaliser que si je suis appelé à prendre ma responsabilité dans ce domaine, il faut aussi que je me fasse éclairer par d'autres et que je me fasse aider, parce que sinon je peux de nouveau sombrer dans la toute-puissance et c'est dangereux, parce qu'à ce moment-là je risque aussi de vouloir prendre la place de Dieu. Or je ne suis qu'un être humain, alors faire ce qui dépend de moi et en même temps ne pas prendre la place d'un autre. Pour ceux qui viendraient nous rejoindre en cours d'émission, je rappelle que je suis en train d'expliquer comment le concept de santé a beaucoup évolué aujourd'hui, et particulièrement en Occident, et entre autres d'ailleurs à la lumière aussi de ce qui nous vient d'autres traditions comme l'Afrique. Et beaucoup de gens attendent de la santé quelque chose de plus large que l'absence de maladie. Et justement, je terminais en posant la question, mais qu'est-ce que c'est que la santé pour vous ? Et c'est une question que je pose souvent dans les formations que je fais pour les praticiens de la santé dans le cadre de l'institut dont je m'occupe, également de la faculté de médecine, où je pose la question, mais qu'est-ce que vous mettez sous le mot santé, sous le mot maladie, sous le mot guérison ? C'est important parce que derrière notre réponse, il y a toutes nos représentations de la maladie, de la santé, mais aussi une vision de l'homme, de l'être humain, du bonheur humain. Prenons le mot maladie, par exemple. Eh bien, quand on demande aux gens, d'après vous, qu'est-ce que c'est que la maladie, presque tout de suite, on va dire, c'est un désordre. C'est une disharmonie, c'est un déséquilibre, et cela entraîne de la souffrance. Alors, je ne sais pas comment vous, vous définiriez la maladie. En tout cas, c'est presque toujours une question qui renvoie à une crise. Crise d'identité, crise de la personne, crise de l'équilibre. Crise dans le sens étymologique du mot. Un moment de jugement, de discernement. Alors, le mot maladie peut s'adapter, peut s'appliquer à des sociétés. On peut dire des sociétés malades. Il y en a qui nous disent que le cosmos est malade ou que notre civilisation est malade. Ici, je prends l'idée de malade, de maladie appliquée à la personne et à toute personne en situation de grande fragilité. Et quand je dis situation de grande fragilité, je veux dire, il ne s'agit pas forcément de personnes qui sont couchées, qui sont hospitalisées ou qui ont une maladie chronique. Et je sais que parmi vous qui m'écoutez, il y en a certainement qui sont dans cette situation-là. Mais je le prends dans un sens plus large que l'approche purement biomédicale. Parce que il y a des gens qui se disent malades dans le sens qu'elles vivent un mal-être. Elles sont mal avec elles-mêmes, elles ne sont pas bien, elles ont l'impression de ne pas pouvoir vivre la plénitude de qui elles sont, alors qu'il n'y a pas de pathologie déclarée. Et dans ce sens-là, on peut dire que l'anglais est peut-être plus riche que le français, puisqu'en anglais, on fait la différence entre « illness » et « disease ».« Illness »,« to be ill », c'est « être mal », se sentir mal. Tandis qu'une « disease », c'est une maladie déclarée, que l'on peut étudier, une pathologie claire. Alors, quand on dit que la maladie est un désordre, eh bien, bien sûr, pour un certain nombre de personnes, cela veut dire qu'elles se sentent en désordre, elles se sentent en disharmonie. Il faut dire aussi que ça dépend de la définition que l'on va donner de l'ordre. Qu'est-ce que c'est que la norme ? Si, bien sûr, on est dans une société où il faut être toujours dans l'excellence, on sera très vite malade dès que ça va pas bien. On ne peut pas être toujours, comme on dit en France, au top niveau. Alors, chaque culture a sa définition de la bonne santé. Et par exemple, en Afrique, il est impossible de définir la bonne santé sans parler des relations. Il faut dire aussi que même suivant le milieu social, il y a des possibilités d'être malade ou pas. Vous avez des fonctions sociales où il est prévu que vous ayez X jours de maladie par an. Et vous vous arrangez bien sûr, pour les prendre. Mais si vous êtes une mère de famille nombreuse, eh bien, vous n'avez pas le droit d'être malade. Donc, cela aussi change les critères de la définition de la maladie et de la norme. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est que cela renvoie à l'idée d'un dysfonctionnement. Et très souvent, c'est le moment dont on veut être libéré le plus vite possible. Et là, j'y reviendrai quand je parlerai de la guérison. Aujourd'hui, il y a quand même l'idée que la maladie peut être le signe qu'il se passe quelque chose qui dysfonctionne en nous, et la maladie peut être, en tant que symptôme, un signe important. Si vous êtes malade, ou si vous ressentez un malaise, ou si votre organisme est malade, c'est peut-être aussi parce qu'il vous signale que pour le moment vous abusez, peut-être de l'alcool, peut-être du tabac, peut-être de la drogue, peut-être du rythme de travail. Mais il faut savoir que la maladie et la souffrance fonctionnent parfois comme un signal. Et donc, il y a une façon d'approcher la maladie qui est non pas essayer d'occulter à tout prix les symptômes et faire en sorte qu'on ne ressente plus rien, mais de se poser la question, et c'est là qu'on parlera d'une approche holistique, globale, cette maladie physique est le symptôme de quel autre problème ? D'où l'approche de la psychosomatique, mais aussi l'approche culturelle de la maladie. Donc, en fonction de la culture à laquelle vous appartenez. Nous reprendrons ces questions plus tard. Donc, si on parle de la maladie comme d'un désordre et d'un déséquilibre, eh bien sûr, lorsqu'il s'agira de définir la santé, on va dire, être en bonne santé, c'est être en harmonie, être dans l'équilibre. Et très souvent, il y a aujourd'hui une approche, je vous disais global, où on dira que la santé, c'est vivre une certaine cohérence. Cohérence entre son corps, sa tête et, je dirais, pour certains, sa spiritualité. Cohérence somatique, psychologique, spirituelle. Et ça, c'est quelque chose d'assez subjectif. Je me sens en bonne santé ou pas. C'est pas forcément quelque chose qui se voit de l'extérieur. Et en tout cas, C'est la personne elle-même qui se rend compte qu'elle doit se maintenir dans cet état-là. C'est-à-dire que la santé n'est pas un état statique, mais c'est un processus d'adaptation continuelle par rapport à des choses qui se passent dans mon corps, dans mon psychisme, mais aussi des agressions qui peuvent venir de l'extérieur, changement de climat, accident, etc. Alors si on considère la santé comme une cohérence somatique, psychique, spirituelle, du coup, l'acte thérapeutique aura pour objet de remettre en ordre cette cohérence. Et ça, c'est dans l'approche que nous avons aujourd'hui, qui nous dit que cette cohérence concerne la totalité de la personne et pas seulement sa biologie, et aussi que nous avons une responsabilité par rapport à cela. Donc, pour toute personne en situation de fragilité, qui se sent donc mal, eh bien, il y a cette approche plus globale de la santé, cette approche aussi qui nous montre que nous avons une responsabilité, même si, bien sûr, nous ne sommes pas responsables de notre capital génétique, nous ne sommes pas responsables de tous les événements qui nous arrivent, mais si nous ne pouvons pas changer la réalité, nous pouvons peut-être changer le regard que nous avons sur cette réalité. Et si nous ne pouvons pas changer le corps que nous avons reçu, peut-être que nous pouvons en gérer les effets autrement. Donc, un travail de responsabilité pour maintenir cette cohérence et vivre ce processus d'adaptation continuelle. Et dans ce domaine-là, il faut dire qu'un nombre croissant de personnes ne veulent plus être simplement des patients, mais elles veulent être ou bien des clients ou bien des responsables de leur santé, mais ne pas être simplement en situation de dépendance. Et là, nous en reparlerons également. On insiste aussi beaucoup aujourd'hui sur les capacités d'auto-guérison par rapport à la santé. C'est-à-dire qu'il y a dans l'homme des capacités, des ressources auxquelles il ne fait pas toujours suffisamment appel parce qu'on a pris l'habitude de s'en remettre aux médecins et aux praticiens. Et c'est là que nous pouvons en venir à la question de la définition de la guérison. La guérison, eh bien, pour beaucoup de gens, si vous leur demandez « qu'est-ce que guérir ?», ils vont dire « revenir à l'état de santé antérieur ». C'est-à-dire le dépassement de la maladie, la disparition des symptômes, un retour à l'ordre antérieur, et donc se retrouver dans un bon état physique, psychologique, spirituel. Il y a aussi l'idée de réintégration de la vie sociale lorsque, par exemple, on a été hospitalisé. En tout cas, pour beaucoup, l'idée de guérison renvoie à l'idée de fermer une parenthèse sur une épreuve douloureuse. Et là, il me semble qu'on est dans l'illusion. On est dans l'illusion lorsqu'il s'agit d'une véritable maladie qui était importante. Notre corps a une mémoire, notre psychisme a une mémoire. Et lorsque nous avons traversé une épreuve de santé importante, il y a des choses qui se sont passées en nous. Des choses peut-être désagréables. L'expérience de notre limite, de notre pauvreté. Mais il ne faut pas gommer la réalité que l'on a traversée. Peut-être que, dans l'immédiat, on va simplement sentir le soulagement que peut ressentir une personne qui était en train de couler dans l'eau et qui tout d'un coup revient à l'air et peut respirer de nouveau à fond. Mais il faut avoir le courage de se dire qu'il ne s'agit pas simplement de, comme on dit simplement, revenir à la case départ. Parce qu'il y aurait un risque de déni, une forme de toute-puissance peut-être, un risque de fuite de cette réalité. Oui, bien sûr, il peut y avoir des épisodes de maladie qui nous dérangent pendant un certain temps, mais l'essentiel, c'est d'être en forme, et de toute façon, la vie, c'est la puissance, c'est la réalisation de soi, c'est l'épanouissement. Oui et non. Nous sommes des êtres en devenir, nous sommes des êtres en croissance, et quand nous sommes jeunes, et il y a certainement des jeunes qui m'écoutent, eh bien, les questions de santé sont peut-être des petits épisodes qui vont se présenter devant nous lorsqu'on sera malade, mais on a toute la vie devant soi. Lorsqu'on a une certaine expérience de la vie, on découvre que nous sommes tous des êtres fragiles. Et que ce que nous révèle la maladie, c'est que nous avons à apprendre à nous apprivoiser nous-mêmes avec nos fragilités, avec nos limites, avec le processus du vieillissement, que nous ne sommes pas à l'origine de notre propre vie, que nous terminerons un jour, que nous irons peut-être ailleurs pour ceux qui croient dans une autre vie, mais en tout cas que nous ne sommes pas définitivement sur cette terre et que nous ne serons pas toujours dans un état de bien-être le meilleur possible. Et c'est pourquoi il y a toute une dimension qui est se réconcilier avec sa finitude, se réconcilier avec sa pauvreté. Et c'est pour ça que pour certains, guérir ne sera pas retrouver l'état de santé intérieure, mais être capable de dire, eh bien, je peux vivre aujourd'hui avec cela. Je serai diminué, j'ai une attaque cardiaque. Ceux qui ont des problèmes cardiaques parmi nous peuvent bien le comprendre. Ceux qui ont une maladie chronique aussi. Je vais vivre avec cela maintenant. Et sortir de la culpabilité. Et peut-être que la grande réconciliation, c'est avec Dieu, pour ceux qui pensent que c'est Dieu qui a envoyé cette maladie. Et de se rendre compte que non, ça fait partie de la vie que d'être malade. Et donc, eh bien, je vis avec cela. Je me réconcilie avec moi-même, limité. Je me réconcilie avec mon corps. Je me réconcilie avec mon Dieu. Et pour ceux qui arrivent à accepter, et peut-être que pour certains d'entre nous qui écoutent maintenant et qui sont couchés dans des lits d'hôpitaux ou qui sont sur des chaises roulantes, pouvoir accepter d'être diminué, de ne pas pouvoir guérir, en continuant à croire qu'on est quand même l'enfant bien-aimé de Dieu, croire que mon Dieu me rejoint dans cette fragilité, qu'il ne me laisse pas seul, pouvoir me réconcilier avec ce Dieu, pouvoir m'entendre dire à moi personnellement aujourd'hui, « Tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Me recevoir comme enfant bien-aimé, me laisser aimer. Oser croire à cet amour, alors que je pense que je ne guérirai pas. Oser m'abandonner à cette force intérieure qui m'est offerte, malgré mes limites et mes fragilités. Eh bien, pour certains, cette réconciliation-là, ce sera le salut. Parce que le salut n'est pas forcément être guéri. Le salut, c'est peut-être aussi simplement se laisser aimer par un Dieu pour qui je reste unique, mais qui me dit que pour le moment, eh bien, c'est à cette confiance-là qu'il m'appelle et que je peux connaître une paix, même si pour le moment, je ne peux pas guérir.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.